Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le talentueux, le roukmout, Julien Vénesson.
Qu'est-ce que c'est encore que cette dénomination là?
T'aimes pas le roukmout?
Non.
Bah, t'es bien roux?
Ouais, roux, c'est bien, roux.
Bah, roukmout, c'est sympa.
Bah non, je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs.
Bah, c'est un petit surnom pour les roux.
Ah bon? Bon.
Tu connais pas l'expression roukmout?
Ok, rudette.
Donc Julien, tu avais une actualité, tu disais justement que c'était les vacances et qu'il ne se passait rien.
Il se passe rien, alors on est obligé, on mange pendant le podcast.
Enfin, voilà, quand Julien mange pendant le podcast, bravo. Donc, j'ai vu ce qu'il bouffait, il mange des compotes. je voulais pas le dénoncer, mais il mange des compotes.
Tout à fait, pour la croissance musculaire.
Pour la croissance musculaire. C'est d'ailleurs un nutritionniste renommé qui t'a conseillé ça.
Ah oui, après l'entraînement.
Allez, cool. Sinon, sorry, il y avait une petite actu, c'est, j'ai vu qu'il y avait un de mes anciens élèves, donc comment il s'appelle sur le forum? C'est Fredo, je crois qu'il s'appelle sur le forum, qui parlait d'organiser un voyage groupé, super physique, donc entre passionnés de muscu et, en ayant l'esprit super physique. Donc, ça part d'une bonne idée, après, je pense que c'est infaisable. Donc, à vous de me prouver que j'ai tort, en organisant le voyage, hein, mais, on voit bien que j'ai bien vu qu'avec les années, en fait, rien que les rassemblements, d'une journée était devenu compliqué avec Internet. C'est plus comme avant. Donc la dernière rencontre super physique qu'on avait fait en février, justement, il n'y avait pas eu grand monde qui s'est déplacé. Alors que tout le monde voulait venir, etc. Mais personne n'était disponible. Alors de là, organiser un voyage d'une semaine, que ça coïncide pour tout le monde les dates, la destination, etc. Là, je pense que c'est... ça tient du miracle. Donc si quelqu'un veut se lancer sur l'organisation... qu'il n'hésite pas, je me joindrai volontiers à ce voyage, hein, vous pouvez compter sur moi. Et sur Julien, évidemment, maintenant qu'il fait de la musculation à plein temps. Hein, Julien?
Tout à fait.
Alors, première question de ce soir, pour toi. J'ai vu dans de nombreux reportages des athlètes soumettant leur corps à des chocs de température. Exemple, sauna et bain glacé à suivre ou séparément. Alors, est-ce vraiment efficace? Y a-t-il des dangers? À quelle fréquence faut-il faire ces pratiques?
J'avais posté une étude à ce sujet sur mon blog il y a pas mal de temps, c'était au début quand j'avais ouvert mon site, qui montrait que les bains froids diminuaient les courbatures. Et c'est effectivement utilisé par beaucoup d'athlètes à la suite de matchs traumatisants pendant les compétitions pour récupérer plus rapidement. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire justement pour ce genre de choses, c'est-à-dire quand on est dans une période de compétition où on enchaîne les matchs, les combats ou les séances ou quelque chose comme ça. Mais il vaut mieux éviter de le faire toute l'année parce qu'apparemment, pour l'instant, il n'y a pas eu non plus des milliards d'études, mais il semblerait que ça ait quand même ralentisse la prise de masse musculaire. Donc, c'est pas quelque chose que je conseillerais de faire systématiquement. Je pense que c'est vraiment quelque chose pour les athlètes qui font de la compétition pour accélérer la récupération. Là, on sait vraiment que ça fonctionne et que c'est une bonne idée. Donc voilà ce que je peux dire.
Et pour le chaud?
Bah non, le chaud, ça sert pas à grand chose.
Voyez l'alternance.
Bah l'alternance, c'est surtout le fait d'aller dans du froid qui est intéressant. Aller dans du chaud, ça sert à rien du tout. Ça peut aider un petit peu à s'échauffer. Hein. Le mot s'échauffer est quand même assez clair. Chauffer, c'est qu'on chauffe quand on commence un exercice physique. Donc je sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais je pense qu'on a naturellement besoin d'un peu moins d'échauffement en été quand il fait chaud qu'en hiver quand il fait froid. Parce que le temps de mettre en route la machine, les articulations.
C'est ce que je disais dans ma newsletter pour mes abonnés cette semaine d'ailleurs.
Ouais.
Que tu as dû recevoir Julien et que tu n'as pas lu évidemment.
Si, avec attention, c'est pour ça que je dis ça.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, je pense que là c'est assez clair. Hein.
Ouais, bah moi je vois dans les reportages que je regarde un peu sur la NFL, les mecs ils font tout ça après l'entraînement. Et même à l'époque, il y a plus de 10 ans, là, quand j'étais gamin, on voyait les sprinteurs se mettre dans des bains de glace après l'entraînement. Alors après, c'est toujours la même chose, c'est comment mettre ça en pratique chez soi. Comment se faire un bain de glace? Ça me paraît bien compliqué. Enfin bon. Donc t'as bien répondu à la question. Merci Julien, entre tes deux compotes. Julien, t'as pas sur le clavier, on t'entend, ça, quoi.
C'est Akuma.
Ouais, bien sûr.
J'ai acheté un ordinateur à Akuma. Avec des grosses touches, parce que comme il avait...
Bien sûr. J'ai vu, avant le podcast, Julien faisait danser son chat, hein, à la webcam. Hein. Alors, question d'entraînement.
Non, mais t'as quand même dit qu'il était mignon, t'as reconnu.
J'ai dit ça pour faire plaisir.
Oh, quel mauvais... Bon,
revenons sérieux. Entraînement. Oui. En sèche, faut-il mettre l'accent sur les points faibles de l'entraînement en augmentant la fréquence ou le volume d'entraînement, sachant que l'on perd un peu de muscle en séchant? Les points faibles risquent-ils de morfler en premier? Ou au contraire, il faut juste les entraîner comme d'habitude une fois par semaine, mais maintenir ou augmenter les charges pour qu'ils ne perdent pas trop? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Ça commence avec mon e-book sur la sèche que j'ai écrit, donc il écrit exactement tout quoi faire pendant une sèche, donc il est disponible sur unicoya.com. Donc en sèche, oui, les points faibles morflent en premier. C'est toujours ce qui part en premier. Donc moi, je vois par exemple que je perds rapidement, même si maintenant on a du mal à voir les points faibles qui étaient à la base, mais je perds plus rapidement des bras et des quads que des pecs qui restent, qui bougent pratiquement pas. Donc, oui, on perd plus rapidement des points faibles au régime. Ensuite, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les points faibles au régime? Donc en augmentant la fréquence ou le volume, je dirais non. Parce qu'on est déjà en sous-alimentation, et en faire plus sur un muscle qui a déjà du mal à se développer, c'est forcément accroître, entre guillemets, la perte de muscle à cet endroit-ci. Donc faut pas augmenter, donc je conseillerais, comme la personne a conclu la question, de les entraîner comme d'habitude, et de toujours chercher à progresser. Comme il est question en prise de masse, toujours chercher à progresser, c'est toujours le maître mot, progresser. Alors après, ouais, pas augmenter, pas chercher à mettre l'accent. D'ailleurs, tous les élèves que j'entraîne et qui me disent j'aimerais mettre l'accent sur un muscle alors qu'ils sont en sèche, en général, je repousse un peu l'échéance quand ils vont remanger, parce que c'est vrai qu'en sèche, ça sert pas à grand chose à part accentuer la perte de muscle à des endroits déjà qui souffrent énormément. Hein, Julien?
Mmh, absolument.
Dit-il la bouche pleine.
Mmh. Mmh.
Julien, c'est pour toi d'ailleurs.
Mmh.
Tu conseilles de choisir certains aliments bio, notamment les œufs. Comment être sûr que l'on achète réellement bio, avec des contrôles qui sont parfois négligés, et un bio qui devient industriel, avec des normes qui laissent à désirer?
Je dois dire que je suis d'ailleurs en train de manger des œufs au plat.
Mais j'espère qu'ils sont bio.
Et ils sont super bons.
Ils sont bio ?
Oui, bah oui, ils sont bio.
Heureusement.
Alors, sur la question des contrôles, moi, je travaille pas chez Ecocert, hein, qui est un organisme de certification, donc je peux pas vous garantir que quand vous achetez du bio, bah c'est vraiment du bio. Mais à ma connaissance, les fraudes sont quand même super mineures. J'en ai pas trop entendu parler, donc il y en a peut-être, mais je pense que ça va être très modéré. Comme j'ai déjà expliqué, quand on achète du bio, on n'est pas en train d'acheter la pureté originelle sur Terre, on achète simplement un produit qui contient moins de pesticides qu'un produit de l'agriculture conventionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus tout de pesticides. De toute façon, l'eau ayant été contaminée et puis l'environnement de manière générale, il y a toujours des pesticides, même dans les produits bio, donc c'est pas, on ne peut pas les éliminer totalement. Mais néanmoins, on a maintenant pas mal de preuves qui vont dans le sens que les diminuer, c'est bon quand même pour la santé, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis ça encourage aussi un autre type d'agriculture. Donc je pense qu'on peut rien faire de spécial à part avoir confiance quand on achète du bio ou quand on achètera un autre aliment en ce qui concerne les certifications. Tous les produits bio ne sont pas forcément bons à acheter. J'ai envie de dire, par exemple, vous voyez des fois des produits bio qui sont importés de l'autre bout de la terre. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'acheter des kiwis qui viennent je ne sais où du Guatemala par exemple? Est-ce que ça a un sens?
Est-ce que c'est vraiment bio?
Non, ça peut l'être, mais est-ce que ça a un sens de faire voyager un kiwi d'aussi loin au niveau de la démarche? Ça paraît un peu stupide, donc effectivement, privilégier le local aussi ce serait un peu quelque chose de bien. Il y a une histoire, c'est une anecdote, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais elle est marrante. C'est l'histoire d'un camion qui partait en Espagne avec des tomates plantées dans des serres et qui prend la route pour aller livrer les tomates en Belgique. Et en même temps, il y avait un camion belge qui emmenait des tomates de Belgique vers l'Espagne. Et les deux camions se seraient rencontrés sur la route et auraient eu un accident ensemble. Et les tomates se seraient déversées par terre. Et donc voilà, c'était la rencontre des deux... Donc c'est un peu absurde de faire pousser des tomates d'un pays pour l'amener dans un autre si en même temps effectivement on en prend de c'est la ressource gaspillée. Donc voilà, bon, ça c'est un problème qui dépasse le bio. Sinon, ce qu'on peut dire aussi à propos du bio, c'est que c'est pas parce qu'on paye cher que c'est forcément mieux. Il y a des aliments dans l'agriculture conventionnelle qui contiennent très, très peu de pesticides, soit parce que au niveau du mode de culture ou au niveau de l'aliment, quand on, par exemple, on va l'éplucher ou qu'on va enlever la carapace, on va plus avoir ou très très peu de pesticides résiduels dans l'aliment. Et au final, pour ces aliments-là, c'est pas intéressant de les acheter bio parce qu'ils coûtent plus cher. Alors là, je suis un peu embêté parce que c'est le thème d'un dossier que j'ai fait pour mon magazine Alternative Bien-être. Comme c'est un magazine qui est réservé aux abonnés payants, je peux pas me permettre de diffuser l'information à tout le monde. Je pense qu'ils vont pas être contents.
Donc tu peux rappeler que là où on peut s'abonner, qu'en plus ça coûte presque rien l'abonnement.
Bah, faut me poser la question parce que pour l'instant c'est du bouche à oreille, donc faut me poser la question sur ma page Facebook ou m'envoyer un mail et je donnerai le lien pour s'abonner, mais donc c'est pas cher, on a une formule à 18 € par an, vous recevez un numéro par mois. Donc
Donc ça fait 1,50 €.
Ouais, à peu près.
Donc vraiment pas cher du tout. D'ailleurs, je suis abonné. Hein.
T'en es content ou pas, Rudy?
Bah, du premier numéro, oui, j'attends le deuxième. J'attends le deuxième, et le premier était vachement bien, je t'avais fait mes critiques d'ailleurs.
C'est celui de juillet que tu as reçu, c'est ça?
Bah ouais, c'était le...
D'accord.
Bah quand tu m'avais donné le lien en fait, donc ouais.
Ok. Bon. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le bio. Hein.
Ouais, t'as bien répondu, Julien. Hein. Même si tu manges en même temps...
J'ai été obligé de faire une pause, tu te rends compte, Rudy? C'est incroyable.
Putain, une pause entre deux cuillères de compote, merde.
Bah ouais.
C'est compliqué, hein.
Je peux même plus manger tranquille le soir, maintenant.
Alors, entraînement. Si on est large d'épaule et que l'on manque donc d'épaisseur. Donc, là, je reviens vite fait, si on est large d'épaule, on manque pas forcément d'épaisseur. Est-il nécessaire de quand même bosser la partie latérale des épaules et la largeur du dos? Donc, c'est-à-dire les exercices de tirage verticaux, c'est-à-dire tout l'exercice de traction à la poulie ou à la barre fixe pour développer les dorsaux. Ne vaut-il pas mieux ne bosser que l'arrière d'épaule et l'épaisseur du dos, donc tirage horizontaux, tout ce qui est rowing, afin de rattraper ce retard sur l'épaisseur? Alors, ça revient un peu à dire, est-ce que ça vaut le coup de bosser ce qui va moins se développer, donc ce qui a du mal à se développer, donc les points faibles. Donc, je dirais, je pense qu'on n'est jamais trop large, déjà, pour commencer. On n'a jamais trop de largeur de dos. Que j'ai jamais vu, et cache pas, Julien, t'as déjà vu quelqu'un avec trop de dorsaux?
Bah, toi.
Oh, t'es bête.
T'es tellement...
Akuma
aussi. T'es tellement magnifique, Rudy, tu...
Ah, regarde, on a morceau, quoi.
Tu incarnes un peu la perfection, voire même plus que la perfection, et à tel point que ça devient trop.
Fais gaffe, je dirais que t'es amoureux. Non, je pense que si on est large d'épaule, il n'y a aucun intérêt à arrêter de bosser, parce que la structure osseuse, comme j'explique dans les analyses morphologiques qu'il y a sur le site ou que je vends sur Rudikoya, la structure osseuse ne détermine pas tout le potentiel musculaire. Ce n'est que la charpente, et après, il faut voir la longueur de chaque muscle qui permet après de déterminer ce qui va se développer ou ce qui ne va pas se développer. Donc là, si on parle que de structure osseuse, c'est pas parce qu'on est large qu'on va avoir une portion latérale très développée ou pas, et forcément les dorsaux très développés. Donc non, si on manque d'épaisseur, on peut mettre l'accent sur l'épaisseur, donc là sur l'arrière d'épaule et sur tout ce qui est trapèze moyen inférieur, portion interne des dorsaux. Donc en faisant plus de rowing, plus d'exercices d'oiseaux, que ce soit à la poulie ou avec halter. Ou même du soulevé de terre en serrant bien les omoplates à la fin, mais ne pas négliger ou ne pas arrêter de travailler les dorsaux et la partie latérale des épaules. Si un muscle, donc ça revient à dire, si on a un point fort, autant continuer à le travailler, parce que de toute façon, tant qu'on est naturel, c'est rare que, à moins de ne pas avoir vraiment de chance, hein, ça arrive, malheureusement, mais c'est rare d'avoir un muscle qui est vraiment disproportionné par rapport aux autres. Il arrive un moment où de toute façon tout s'équilibre un peu, s'équilibre entre guillemets, où rien ne choque vraiment. Donc ouais. Moi je suis pour développer tout ce qui vient, autant y aller à fond, faut le développer. On n'aura jamais trop de muscles au naturel, hein, donc ça fera jamais moche. Et après, si on a des points
surtout,
faibles
entre guillemets. Surtout le faisceau latéral des épaules, c'est quand même pas.
Ouais, c'est pour le truc, c'est le truc qui prend 20 minutes dans la semaine, quoi.
Oui, et puis c'est surtout aussi le truc pas facile à développer quand même.
Ouais, ouais, donc.
En général.
Ouais, en général, c'est rare. C'est rare de combiner largeur d'épaule et puis longueur du faisceau moyen exceptionnel.
Et en plus, on peut terminer en disant quand même que si on n'entraîne pas une partie du corps, bah c'est exactement comme si on faisait pas de sport. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait pas de sport? Bah on perd de la masse musculaire et on devient un flasque. Hein,
donc, et puis on prend plus facilement du gras à cet endroit-là en plus.
En plus, donc du coup, le résultat de ça, c'est de se retrouver au bout de certains temps avec des épaules toutes plates. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas forcément très beau. C'est assez important les épaules dans la silhouette.
Donc ouais, donc pour revenir, pour finir mon truc, s'il y a un point faible, on peut ralentir certains muscles tout en continuant à les travailler en essayant de progresser, sans les arrêter donc et mettre un peu plus l'accent sur ces muscles en retard. Mais sans oublier que par exemple, je prends l'exemple des mollets. Si demain vous manquez de mollets et puis vous avez un tendon qui fait 25 cm et puis qui a 5 cm de muscle en haut, ce serait con de faire deux fois une heure de mollet en début de séance, quoi. Là, ce serait une vraie perte de temps de faire ça, quoi. Par contre, vous pouvez faire, au lieu de faire un exercice à la fin, en faire deux. Et voir, donc en travaillant, si par exemple, un assis puis un debout, pour changer le raccourcissement des jumeaux. Mais sinon, il n'y a pas... des fois, il y a des causes perdues. Donc, inutile de perdre trop de temps là-dessus, mais on va se concentrer sur ce qui vient, tout en ne négligeant pas ce qui ne vient pas pour essayer quand même de les développer. Hein, Julien?
Bah ouais.
Comme toi, t'essayes de faire les bras et puis ça vient pas?
Quand je fais les bras, moi je prends des cuisses.
Et quand tu prends des cuisses, tu prends des bras. Quand tu fais les cuisses, tu prends des bras.
Exactement.
Ça m'étonne pas. Je viens à dire que Julien m'a fait un posing du dos tout à l'heure.
Je suis le Jean Glodus de la musculation.
Mais Julien est contaminé par la muscu maintenant, il me fait des posings chaque semaine. il rigole, mais c'est vrai. Hein. Il me fait des doubles biceps de face et de dos.
Et Rudy me fait des compliments, c'est ça qu'il faut savoir aussi.
Ouais, c'est vrai que je vois les progrès chaque semaine en ce moment. C'est vrai qu'il progresse. Il va bientôt me ressembler. sans évidemment le bronzage et la coupe de cheveux.
Mais, bien sûr. Ni le porte-monnaie d'ailleurs.
C'est vrai que t'es riche. J'avais oublié que t'étais riche.
Non, c'était l'inverse que j'allais dire.
Ah non, c'est toi qui es blindé. Alors, dernière question. Diététique et santé. Prendre du macro à la place du thon le soir avant de se coucher est-il meilleur pour la santé? Donc ça revient à dire, déjà, un, est-ce qu'il faut manger avant de dormir? Et deux, si on ne prend pas de caséine, mieux vaut prendre du macro à la place du thon. Julien?
Bah ouais.
Donc faut-il manger avant de dormir?
Bah oui, au moins faut prendre un dîner, en tout cas ça c'est sûr. Puis en général, après avoir pris son dîner, on se lave les dents, on attend un peu, je sais pas ce qu'on fait, regarde la télé une heure ou quoi, puis après on va se coucher en général. Bon, on n'a pas le temps d'aller manger du maquereau ou du thon.
Enfin, je peux donner une anecdote, c'est que j'ai déjà mangé du thon avant de dormir, et puis après, faut se laver les dents un petit moment. Hein. T'as une haleine de malade, hein. Surtout du thon en boîte et tout, putain, fou.
J'ai cru que t'allais nous raconter que t'avais rêvé que t'étais un poisson ou quelque chose comme ça.
Et qu'Akuma me mangeait.
Bon, en tout cas, déjà ça, on l'a dit, puis t'en parles un peu dans ton prochain e-book que j'ai eu entre les mains en avant-première. Et
que tu n'as toujours pas payé, d'ailleurs.
Et j'ai toujours pas payé. Et c'est vrai que y a pas de nécessité à prendre de la caséine ou quoi que ce soit d'autre avant de se coucher si on a pris un bon dîner. C'est pas très cohérent. Et j'ai envie de dire, si on a faim au moment où on se couche, bah c'est peut-être que le dîner n'était peut-être pas très adéquat non plus.
Ça peut arriver aussi qu'on laisse, je sais pas, ceux qui dînent vraiment très tôt, genre à 19h, qui se couchent à minuit. Des fois, on peut avoir un peu faim.
Ah bah ouais, dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais bon, à 19h, si tu te couches à minuit, c'est plus vraiment un dîner pour moi. C'est un peu... c'est presque une collation, donc 19h. Parce qu'effectivement, là, il y a un gros laps de temps. Ce qui est certain, c'est qu'il faut pas se coucher en ayant faim. Ça, c'est évident.
Et donc après, le choix du macro à la place du thon?
Alors, faudrait peut-être expliquer pourquoi est-ce que monsieur se pose la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le thon... A priori, je pense qu'il parle de thon en boîte, puisque c'est ce qu'achète la plupart des gens. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le thon en boîte? Première chose, le thon en boîte, il est dégraissé. La plupart des thons, pas tous, mais la plupart des thons en boîte sont dégraissés. Et les métaux lourds qu'il y a dans les poissons se retrouvent piégés dans les graisses. Donc en dégraissant le poisson, déjà, il y a beaucoup moins de métaux lourds dans un thon en boîte que dans un thon frais. Ensuite, le deuxième point, c'est que dans un thon en boîte, on est dans une conserve. Qui dit conserve, dit bisphénol. Il y a du bisphénol hein, dans les boîtes de conserve, donc il y en a aussi dans les boîtes de thon. Donc du coup, on n'a peut-être pas tous les côtés négatifs du poisson avec la conserve de thon, mais on a quand même un petit peu de bisphénol. Avec des maquereaux, si on les achète frais, bah, c'est sûr que c'est mieux, parce que le maquereau, c'est un poisson qui est en bas de la chaîne alimentaire, donc il a peu de métaux lourds, il contient des oméga-3, c'est aussi du poisson, donc c'est plutôt bon pour la santé, donc c'est plutôt pas mal. Mais la plupart du temps, les jeunes en particulier l'achètent en boîte, et là en boîte, on se retrouve avec le même problème du bisphénol, donc j'éviterais d'en abuser spécialement. C'est pour ça que, encore une fois, je remets l'accent sur le dîner, plutôt que d'aller reprendre des collations avant de se coucher. Après, si c'est pas possible et qu'on veut éviter les protéines en poudre au moment du coucher, bah maquereau ou thon, j'ai envie de dire, bah on peut alterner par exemple. Il n'y a pas d'obligation à manger que du maquereau le soir ou que du thon. Il y en a pas un qui va donner un avantage substantiel, incroyable en termes de santé par rapport à l'autre. Il y a un petit peu plus d'oméga 3 dans le maquereau, c'est tout.
Merci Julien.
Ça va, c'est clair, Rudy?
Pour moi, c'est très clair. Hein. Sinon, je connaissais déjà la réponse, mais je te laissais répondre.
Comme Dieu, tu es omniscient et omniprésent. Et...
Ouais, je connais déjà tes réponses à chaque fois, presque à chaque fois. Donc,
Tu vas finir par me remplacer un jour.
Bah non, si c'est mieux à deux.
Tu poseras les questions à toi-même et toi-même te répondras.
Putain, là, ce serait fort. Hein.
Et après, tu te.
Et je rigolerai tout seul de mes blagues.
Et tu te féliciteras toi-même pour ta participation.
Mais je me présenterai avec plein de pseudonymes différents.
Exactement.
D'ailleurs, petite anecdote, Julien avait partagé sur son mur une vidéo d'un de mes élèves qui nous parodie. Et il y a eu des nouvelles parodies, Julien.
Ah, bah alors il faut qu'on les partage.
Donc tu pourras aller voir, je te montre après le podcast là.
D'accord.
Mais il y a eu des nouvelles parodies encore marrantes.
Bah, je mettrai ça sur ma page Facebook.
Donc pour ceux qui veulent ça à s'abonner, donc je sais pas si j'écoute les podcasts, mais sur Instagram, son pseudo c'est Georges05. Et donc il y a pas mal de parodies de moi et Julien en podcast, c'est assez drôle à regarder. Donc voilà, donc on a fini pour ce soir. Donc je rappelle, comme à chaque fois, que vos questions sont à poser. Donc c'est la rubrique entraînement, donc je le redis, rubrique entraînement sur le forum, c'est pas ailleurs. Sujet podcast, donc vous posez vos questions et après je les mets dans le tas de questions et on les sélectionne chaque semaine. Et comme vous voyez, on y répond en y prenant du plaisir et en rigolant bien. Donc sur ce, à la semaine prochaine.
Au revoir.